En ce dernier week-end de février, se déroulait au Parc des Expositions de Tours la 6e édition de la Japan Expo. Vous écoutez Radio Campus Tours, suivez-moi pour une petite rétrospective auditive. Dans ce salon dédié à la culture geek, pop et au Japon, nous avons salivé devant les stands de nourriture du Grand Hall entre la grande scène et les arènes de combat, puis nous avons traversé le Hall A entre les boutiques et l'espace e-sport pour finalement nous retrouver dans les allées du Hall B entre jeux indés, tradition japonaise et exposition. Je suis allée à la rencontre tout d'abord de youtubeurs.
Je vous laisse vous présenter.
Bonjour, moi c'est Amandine.
Moi c'est Rodolphe et on est tous les deux sur la chaîne I'm Rodolphe avec un projet qui s'appelle 80 jours Japon dont on va vous parler.
Rodolphe, explique-nous un peu plus ce que c'est 80 jours Japon.
80 jours Japon, c'est un projet qu'on a lancé avec Amandine tous les deux où on a loué un van pendant 3 mois dans lequel on a vécu, dans lequel on a dormi puisqu'il était aménagé pour faire tout le Japon, partir dans tout le Japon et partir à la rencontre d'artisans traditionnels afin de faire des reportages sur leur vie et leur activité pour mettre en valeur un aspect du Japon qui est plutôt méconnu et qui est pourtant très très important.
Grâce à vos reportages, on peut voir l'artisanat, la nourriture, tout ce qui porte à la tradition du Japon. Les reportages sortent sur YouTube aléatoirement. Du coup, veillez leur chaîne, mettez la cloche, abonnez-vous, c'est très important. Pour préparer ce voyage, vous avez mis combien de temps ?
Pour préparer le voyage, on a mis à peu près 3 mois. En fait, de manière à contacter les artisans, à mettre les sous-côtés, à s'organiser, trouver un van adapté à ce qu'on voulait faire et surtout à faire un petit plan de route en fait.
La genèse de ce projet, d'où ça vous est venu ?
Personnellement, j'ai toujours été passionné par le voyage et la vidéo. Et quand on s'est mis en couple avec Amandine, elle aussi, elle adore le voyage. Et elle est plus marketing, communication, vendre quelque chose, créer des projets, entreprendre. Donc du coup, on a mis nos capacités ensemble. Et vu qu'on a vécu 3 ans et demi à Tokyo et travaillé dans la capitale tout ce temps-là, on s'est dit qu'on voulait rentrer en France. Mais avant ça, on voulait faire quelque chose qui nous marque. Parce qu'on voulait voir le Japon sous un nouvel angle. Que finalement, Tokyo, c'était métro, boulot, dodo. Et la culture du travail au Japon est très, très dure. T'es un petit peu blasé, quoi, de la vie au Japon. Et c'est pas du tout ce qu'on recherchait. On s'est dit qu'il y avait autre chose à voir. Allez, on va mettre nos capacités ensemble. On va créer un projet qu'on va essayer de vendre en France pour promouvoir un aspect du Japon, comme je disais, qui est assez méconnu. Et vu que le Japon intéresse quand même beaucoup les Français. Et on est parti sur les routes, quoi.
Est-ce que vous pouvez chacun me dire un avantage et un inconvénient de ce qu'est la vie en van ?
L'avantage numéro un, c'est qu'on peut aller partout et dormir partout. Donc en fait, on n'a pas besoin de s'inquiéter de prendre une chambre d'hôtel en avance parce qu'on va aller dans cette ville à un moment donné. Donc ça, c'est génial. C'est vraiment la liberté. Et l'inconvénient, c'est qu'on a pris un van qui était pas trop cher, donc pas trop grand. On dormait, je sais même pas comment expliquer, les bras le long du corps, l'un côté de l'autre.
Alors pour moi, l'avantage principal, c'est d'avoir un voyage sur mesure qui est unique à toi en fait, si tu fais ce voyage. Parce que forcément, quand tu pars dans un pays étranger, tu regardes un peu ce que font les autres et il y a forcément des endroits touristiques où on t'incite à aller. Et le fait d'avoir un van, ça te permet déjà d'aller dans des endroits qui ne sont pas forcément desservis par des bus ou des trains. Et ça, c'est incroyable, puisque nous, on a vu avec Amandine des endroits, un de nos endroits préférés au Japon, c'est un lac qui est accessible genre en bus, mais que personne ne connaît finalement. Et nous, on y allait parce qu'on l'a vu sur Google Maps, parmi d'autres endroits qu'on a vu comme ça. On a eu un Japon que personne d'autre n'a vu avant nous, en tout cas en termes de Français qui ont voyagé. Peut-être d'autres, mais qui l'ont pas partagé. Et du coup, voilà, c'était quand même un voyage unique. Et c'est pour ça que je recommanderais beaucoup. Après, l'inconvénient, c'est que nous, on est un projet pour travailler. Et c'est vrai que bosser dans le van, c'est impossible. La connexion internet, c'est important. On peut pas vraiment charger si la voiture ne tourne pas. Donc on était obligé d'aller dans des cafés pour se poser. Alors il y a beaucoup de cafés ouverts jusque très tard au Japon, dans tout le pays, mais faut toujours payer pour avoir une conso, il n'y a pas forcément de wifi, il n'y a pas forcément de prise. Voilà, c'était assez délicat. Le premier mois, ça allait, parce qu'il y avait l'euphorie du truc. Mais le deuxième mois, quand j'ai commencé à vraiment éditer les épisodes du vlog et tout, c'était un peu chiant. Des fois, on ne trouvait pas de café avec du wifi, donc on perdait 2 heures à tourner en rond pour trouver un endroit pour se poser. Donc c'est vraiment du temps de gâcher, de l'essence de dépenser pour rien et de l'énergie.
Vous partagez vos aventures sur YouTube, mais est-ce que vous avez des anecdotes que vous n'avez pas partagées ?
Oui, il y en a. En fait, on était au milieu de nulle part, donc à Akita, et on a trouvé un onsen sauvage. Donc en fait, c'est une rivière d'eau volcanique, d'eau chaude, qui se mélange avec une rivière d'eau douce, donc froide, pour faire des petits bains au milieu de la montagne, dans la forêt, sous une cascade où on peut se baigner. Donc on allait se baigner au milieu de nulle part, en semaine, voilà. On s'est déshabillé pour aller nager, se tremper. Bah il y avait personne, hein. Sauf que quand on est sorti, on a commencé à se rhabiller, moi j'avais le cul à l'air, il y a un mec qui est arrivé. Et lui il était là avec son casque de moto, il avait tout préparé, son petit savon, machin. Ça se voit que le gars il allait en montagne, dans la forêt, assez souvent pour faire une petite baignade. Il a vu mon cul, voilà.
C'était son spot et tu étais là.
Moi, on en a parlé en vidéo dans un des épisodes du road trip. Ça arrivait assez tôt dans le road trip d'ailleurs. On était à Gifu, dans la ville de Gifu. On est allé dans un sento. Donc, les sento, c'est les bains publics japonais. Et il y a beaucoup de sento qui sont un peu cheap et qui sont fréquentés par la mafia dans certains quartiers peu fréquentables. Entre guillemets, hein, ça reste au Japon, c'est safe quand même. Donc, du coup, tout le monde est tout nu. On se lave tous ensemble. Donc, là, il y avait des mecs très tatoués dans le sento. Donc, je suis pas dupe. Je savais très bien surtout comment les autres japonais les regardaient, je savais qu'ils étaient de la mafia. Et donc si tu veux, moi les sento, à chaque fois que j'y allais, il y avait du savon disponible pour tout le monde. J'avais jamais fait de sento où il fallait ramener son propre savon, c'était une première pour moi. Et je l'ai découvert en finissant le savon de quelqu'un d'autre. C'était pas le mien, il était pas public. Et donc du coup, il y a un japonais qui est sorti du bain, il était plein de bulles de savon sur lui pour me dire non. Et moi j'ai flippé parce que je me suis dit ouais, je viens de lui poncer son savon et il y a des mecs en tatouage autour de moi, enfin bon voilà. J'ai eu un petit coup de pression quand même. Donc je suis parti attendre Amandine dans la voiture et quand elle est arrivée dans la voiture, elle fait mais pourquoi t'es dans la voiture, pourquoi tu m'as pas attendu à l'accueil et tout. Je fais ouais non, j'ai fait une connerie. Enfin, j'ai eu un petit coup de pression quand même parce que les gens m'ont regardé dans le sento, j'ai fait genre que je parlais pas japonais pour éviter tout conflit potentiel et ça s'est finalement bien passé, mais le mec a dû se dire mais qu'est-ce qu'il fait le blanc bec là à me voler mon savon.
Merci beaucoup pour ces anecdotes. J'espère que votre travail sera plus reconnu et que vous pourrez à nouveau partager des belles aventures. Merci à vous.
Auditeuris, si Rodolphe et Amandine vous ont donné envie de partir en voyage, peut-être aurez-vous besoin d'apprendre les bases du japonais. Si c'est le cas, tendez l'oreille.
Nous sommes actuellement sur le stand de Julien Fontanier. Bonjour.
Bonjour. Alors sur YouTube, j'ai créé la chaîne Cours de japonais. Ce sont de véritables cours de japonais, complets et accessibles gratuitement à n'importe qui sur YouTube.
En suivant vos cours, une personne lambda peut apprendre le japonais en combien de temps ?
Alors ça dépend vraiment du rythme de chaque personne. C'est comme si je te dis Paris-Lyon, en combien de temps tu le fais ? Ça va dépendre de ce qui va en voiture, en tortue ou en TGV. Ça va vraiment, vraiment dépendre des gens. Mais si quelqu'un qui s'y met vraiment sérieusement, en quelques mois, il a déjà d'excellentes bases. Par exemple, tu vois l'écriture. Les gens se disent j'ai besoin d'un an pour apprendre l'écriture, les alphabets japonais, mais en fait non, tu as besoin de juste 2 semaines. Donc il faut s'y mettre et très vite en fait tu progresses, tu sais écrire puis ensuite créer tes phrases en japonais.
Donc si on s'y met en un mois, on est prêt à avoir les bases pour partir en voyage.
Alors quand tu apprends le japonais, il faut commencer par l'écriture, c'est la base. Tu vas faire beaucoup d'écriture sans voir la moindre structure de phrase. En un mois, si tu vas très 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 vite, que tu fais toute l'écriture et que tu commences la grammaire, oui. Mais en général, il faut bien un mois pour l'écriture déjà.
Et comment vous est venue l'idée de créer cette chaîne ?
Pour faire très simple, commencer à enseigner le japonais, j'ai créé ma propre méthode d'enseignement du japonais. Et quand j'ai vu la méthode que j'ai créée et qu'elle fonctionnait sur mes élèves, je me suis dit, bon, cette méthode, il faudrait en faire quelque chose, il faudrait la rendre accessible à n'importe qui. Et c'est là que je me suis dit, bah en fait, je vais la mettre sur YouTube pour la rendre gratuitement, comme ça, accessible.
Chers auditeurs, si vous voulez apprendre le japonais, rendez-vous sur...
sur la chaîne Cours de japonais.
Parfait, merci beaucoup.
Laissons le carré des youtubeurs derrière nous et allons explorer le secteur du cosplay. Au détour d'une allée, mon attention est attirée par les magnifiques créations de Lady S.
Nous sommes maintenant sur le stand de la manufacture de Lady S. Merci mademoiselle Lady S de nous recevoir.
Avec plaisir.
Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce qu'on trouve sur votre stand ?
Je crée des bijoux steampunk. Le steampunk, c'est de la science-fiction victorienne. Et donc, je récupère des montres qui ne fonctionnent plus pour en faire des bijoux. J'ai choisi d'autres composants de l'époque victorienne qui existaient déjà pour en faire d'autres bijoux.
Vous faites ça, c'est votre métier à plein temps ?
Oui, c'est mon métier à plein temps depuis 2 ans.
Sur votre stand, des bagues, des colliers, des bijoux à barbe, ce qui est très original et très sympa. Qu'est-ce que vous avez d'autre ?
J'ai des pendentifs avec des cristaux de Swarovski à l'intérieur, des boucles d'oreilles, des bracelets, des diadèmes. Et j'ai aussi des marque-pages qui ne sont pas des bijoux, mais qui peuvent orner vos livres de l'époque victorienne.
Vous faites exclusivement les conventions ? Vous avez une boutique ?
Je fais beaucoup de conventions, j'ai aussi des points de vente dans des boutiques de créateurs, par exemple à Montrichard, c'est Artisam. Et j'ai aussi une boutique en ligne avec un blog qui me permet d'expliquer la culture steampunk aux personnes qui la visitent.
Votre blog, l'adresse c'est
manufacturelady.fr.
Merci mademoiselle.
Dans l'inspiration de Star Wars, j'ai rencontré une cosplayeuse qui a gentiment répondu à mes questions.
Bonjour madame, merci de nous accorder une petite interview pour nous expliquer comment vous avez réalisé ce magnifique cosplay.
Donc c'est un personnage que j'ai créé moi-même qui tourne sur l'univers de Star Wars. Donc c'est un Twi'lek qu'on appelle ça.
Vous êtes en bottes, pantalon, chemise avec une étole capée, une ceinture, une arme à la cuisse et évidemment un sabre laser. Et vos enfants sont habillés aussi dans l'univers. Combien de temps ça vous a pris pour créer votre costume ?
Je suis pas loin des 220 heures.
Sans les accessoires, donc tout du début, alors bon, à part les bottes évidemment, et le sabre, bien sûr. L'entièreté de votre tenue, vous l'avez fait avec vos mains et votre machine à coudre.
C'est ça, on l'a fait en couture. Après, on appelle ça crafter, donc c'est à base de créa mousse, de latex. Après, des éléments de base qu'on trouve en couture, ça peut être des collants, ça peut... C'est un mélange de tout. Et de patience, surtout de la patience.
Vous êtes lancé dans cette aventure de la création parce que c'est votre plaisir ou parce que c'est votre métier ?
C'est mon plaisir, c'est vraiment mon plaisir de créer.
Et c'est vos enfants qui vous ont inspiré le thème de la tenue ?
On va dire oui. Et l'association Cause Castel, qu'on fait partie tous les deux avec ma fille, on a fait plusieurs sorties et j'étais la maman accompagnatrice toujours en tenue civile. Et à la dernière sortie, ils m'ont cassé un peu les pieds. Voilà, que je sois présente à la GFT en personnage cosplay.
Une toute première expérience où donc vous marchez dans les couloirs de la Japan Expo. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette association, s'il vous plaît ?
Alors, c'est une association qu'on a adhérée depuis tout juste 3 mois, qui est basée sur Retour. Ça permet d'avoir plusieurs personnes. On se retrouve tous ensemble. On se donne des coups de main, on fait des sorties, des conventions ensemble. C'est un partage. C'est vraiment un moment de partage tout ensemble.
On peut retrouver l'association sur leur page Facebook, qui est
Coscastle.
Merci beaucoup madame et bonne convention.
J'ai ensuite rencontré Léo de la Fab Lab.
C'est le Fab Lab de la ville de Tours. Donc on est une association et on met à disposition de nos membres un espace de création principalement axé sur ce qu'on appelle la création numérique, la fabrication numérique. Principalement de l'impression 3D, mais aussi plein d'autres machines. On a une découpeuse laser, des brodeuses numériques et pas mal de machines à commande numérique qui vont permettre de faire de la fabrication à partir de fichiers préparés et modélisés sur un ordinateur.
La Fab Lab, c'est ouvert à qui ?
C'est ouvert à tout le monde. Nous, comme je disais, on est une structure associative. Le principe, c'est de prendre une cotisation à l'année et ensuite, ça donne accès aux lieux, aux machines et aux formations. Parce que non seulement on met à disposition un lieu de création, mais en plus, on donne beaucoup de formations sur l'utilisation de nos machines, mais pas uniquement, aussi des formations plus généralistes sur la modélisation 3D, par exemple, ou même sur la programmation, sur tout ce qui est lié au numérique, en fait.
Et la Fab Lab, c'est où à Tours ?
Alors, on est situé sur le site de MAM. On est ouvert du mardi au samedi entre 14h et 20h.
Pour les auditeurs qui ne connaissent pas Tours, MAM, c'est l'ancienne imprimerie qui a été rénovée et l'adresse de la rue, c'est
49 boulevard Preuilly.
Merci beaucoup. J'espère que ça vous aura intéressé et que vous irez voir le site internet de la Fab Lab de Tours.
Chemin faisant, ma gourmandise m'a attiré sur le stand de
Yuki Longeras avec sa marque Biscuiori à Saint-Avertin. Bonjour Madame Longeras.
Bonjour Madame.
Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce qu'est votre entreprise ?
Moi je suis pâtissière déjà et je fabrique de pâtisserie avec 100% farine de riz. Les biscuits secs, les biscuits un peu moelleux comme moelleux au chocolat, cake aux noisettes et voilà autre chose.
Là vous avez un magnifique stand achalandé sur la Japan. Où est-ce qu'on peut vous retrouver en dehors ?
Je me présente tous les samedis matin pour le jardin, bien sûr. Après, tous les 15 jours, dimanche matin, à Fondette.
La base essentielle, c'est le riz. Vous faites toutes vos recettes vous-même ?
Bien sûr, oui, j'ai la recette originale. Enfin, je fais beaucoup d'essais après. Je fais au moins 10 essais. Après, je finalise la recette et...
Ça part à la vente. Merci beaucoup.
Au milieu des allées, j'ai croisé une autre cosplayeuse de talent. Allons la voir pour qu'elle nous présente son travail.
Nous venons de croiser dans les allées un magnifique cosplay de Nicole Kidman dans Aquaman. Le personnage chez
Atlana.
Ça vous a pris à peu près combien de temps pour le faire ?
À peu près 200-250 heures.
Vous faites ça par passion ou c'est votre métier ?
Non, il n'y a pas de cosplayer professionnel en France, en tout cas qui vivent juste du cosplay. Donc c'est une passion et j'ai un métier à côté. Donc oui, c'est la quasi-intégralité de mon temps libre.
Chaque convention, vous avez des costumes différents ?
J'ai pas 50 000 costumes non plus. Ça m'arrive de faire les concours. En l'occurrence, j'ai fait le concours hier, samedi, à Japan Tour, avec ce costume-là. Et effectivement, j'essaye de présenter un costume différent à chaque fois que je fais un concours.
Sur ce costume, on peut voir qu'il y a différentes pièces. Est-ce que vous pouvez me parler un peu des matériaux que vous avez utilisés, des techniques ?
Alors justement, ce costume, il est intéressant parce qu'il y a beaucoup de techniques différentes. Donc, j'ai une combinaison déjà de base qui a été réalisée entièrement à la main. Donc, le graphisme sur Photoshop. Le tissu a été imprimé, le patron a été modélisé avec ma taille spécifique. Donc, ce n'est pas un patron du commerce. Je l'ai ensuite fait imprimer en Angleterre. Voilà, sur du tissu particulier. Arrivé chez moi, je l'ai cousu. J'ai repassé chaque petit détail avec de la peinture 3D pour accentuer les effets écailles dessus. Je l'ai repeint pour ajouter des textures et des couleurs différentes. Ensuite, j'ai beaucoup d'accessoires avec du cuir, du faux et du vrai. J'ai notamment du cuir de poisson, que donc l'univers d'Aquaman, c'est un univers aquatique, et je voulais des matériaux assez proches de la réalité. Donc il y a à la fois du cuir classique comme sur une petite pochette que j'ai dans le dos, et également donc j'ai du cuir de poisson sur mes protèges tibia et sur une espèce de nageoire. J'ai du latex sur ma dorsale, donc j'ai un espèce d'aileron dorsal qui est en latex pour garder aussi un effet très organique. Et j'ai du thermoplastique et de la mousse pour tout ce qui est faux ossements, parce que j'ai beaucoup d'ossements et de pics sur le costume.
De techniques utilisées pour un rendu absolument impeccable. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux gens qui veulent se mettre au cosplay ?
Alors bah justement, le cosplay, c'est autant pour les gens qui aiment coudre que les gens qui aiment bricoler, les gens qui aiment faire des bijoux, les gens qui aiment faire du maquillage. En fait, on touche tellement de techniques différentes qu'il y a toujours moyen de trouver un costume qui va nous plaire et de trouver un perso qui va à la fois respecter l'univers qu'on aime. Parce qu'aujourd'hui, le cosplay, c'est les mangas, c'est les films, c'est les séries, c'est les jeux vidéo, c'est tous les univers qu'on aime et c'est la BD aussi. Bah en fait, si vous aimez ça, lancez-vous. Le plus dur, c'est de se lancer. Il faut surtout n'avoir rien à faire de ce que les autres pensent. Ne pas hésiter à demander des conseils aux gens, à des cosplayers que vous suivez, parce qu'on ne mord pas. C'est toujours un plaisir d'aider. Il y a plein d'associations. Il y a une super association à Tours qui s'appelle Coscastle. Ils travaillent avec le Fun Lab. Elles sont adorables. Clairement, voilà, cette association, elle est vraiment là pour aider les gens qui ont envie de s'y mettre. Voilà, si je peux recommander quelque chose aux Tourangeaux, c'est de contacter Coscastle pour commencer le cosplay. C'est vraiment idéal et ils sont plein de bons conseils.
Bah, merci beaucoup, Chouchou.
Continuant mes déambulations dans le coin des auteurs, mon attention est captée par une banderole proclamant des mangas 100% français. Sur le stand, deux frères, l'un éditeur, l'autre auteur, à qui j'ai tendu mon micro.
Sur le stand de Doshin Éditions, des éditions 100% françaises et indépendantes, merci à Geoffrey l'éditeur de nous recevoir.
Bonjour Audrey, merci à toi de m'interroger.
Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs ton métier ?
En gros, je dois travailler avec les auteurs, recevoir leurs livres et le promouvoir pour essayer d'en vivre, de les faire vivre et de vendre le plus de livres possible, soit à travers des conventions, soit en ligne directement sur Internet.
Vous travaillez exclusivement dans des salons tels que la Japan Expo et sur Internet, on peut vous retrouver sur quel site ?
Notre site www.doshineditions.com. On fait à peu près 25 conventions par an, donc à peu près dans toute la France, Belgique et la Suisse.
Tous les pays francophones, donc. Et votre maison d'édition est basée où en France ?
Alors on est du côté de Nevers, on a les stocks en tout cas sont là-bas. On travaille aussi pas mal avec les librairies partenaires dans le sud de la France, donc Montpellier, Pau, Bordeaux. Voilà. Et on a également une librairie partenaire à Nantes, où Romain, notre premier auteur, a fait ses études.
Là sur votre stand, nous pouvons voir pour l'instant uniquement des auteurs que vous promulguez, il n'y a que vous qui les éditez.
Presque. Donc nous avons deux auteurs, Romain Huet et Lynn. Tous deux ont commencé en fait en auto-édition, donc chacun dans leur coin. Et c'est force de dialoguer, de se rencontrer, etc., qu'on a décidé d'unir nos forces un petit peu et de travailler main dans la main. Voilà. Mais donc à l'origine, c'était des auteurs vraiment indépendants. Ils ont commencé tous les deux par du financement participatif. Actuellement, voilà, il y a deux séries pour Romain Huet, donc My Magical Girlfriend et Yggdrasil Sentai, qui sont tous les deux des séries relativement courtes sur un univers un peu magical girl, etc. Mais avec l'idée pour Romain de parler un peu de problèmes de société, de faire des mangas un petit peu engagés sur des sujets d'actualité française. Là, l'idée étant d'avoir des divertissements tout public, mais un petit peu engagé, histoire de faire un peu réfléchir le lectorat. Voilà, et pour Lynn, et le manga Shinobi Eri, on est sur plutôt des histoires qui se déroulent au Japon au XVIe siècle. Là, on est plutôt sur des faits réels, mais avec une réelle inspiration Disney. On va retrouver des personnages anthropomorphiques, la manière de ce que faisait un peu Robin des Bois. Des mangas donc plutôt tout public aussi, divertissement, aventure, etc.
Merci. Nous allons passer avec l'auteur. Bonjour Romain, merci de nous recevoir pour parler de ton dernier manga, Yggdrasil Sentai.
Bonjour à toi.
Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs ce qu'est Yggdrasil Sentai ?
Alors, Yggdrasil Sentai, c'est une série qui est en 5 tomes, qui va être divisée en 4 one-shots, et un dernier tome, le 5e, qui réunira toutes les filles présentes dans les one-shots précédents. On est dans d'heroic fantasy, c'est du manga, ce qu'on appelle plutôt du shonen, c'est-à-dire action-aventure. On va tendre sur du seinen, donc qui va être les mangas pour un peu plus, on va dire, les un peu plus grands, avec un fond derrière, au travers du coup de cette mythologie nordique, parce que Yggdrasil, l'arbre monte chez les vikings, donc au travers de cette mythologie, en réalité, on va suivre 5 jeunes filles qui vont vivre leurs propres aventures, et au travers de ça, avoir un sujet social qui est traité en fond. Dans le premier tome, on a traité de l'homophobie et d'homosexualité. Dans le second tome, on traite du terrorisme, de la religion extrémiste, de l'endoctrinement. Et dans le troisième tome, on est sur le racisme, vivre ensemble. Le quatrième tome, qui vient de sortir, traite du transhumanisme, de pédophilie et du pédosatanisme. Et le cinquième tome, du coup, qui est vraiment la réunion de toutes ces filles, traite finalement d'un humanisme. Et donc, tous ensemble, nous devons lutter contre le même mal, etc.
Oui, donc des sujets pas adressés à un jeune public.
En réalité, si c'est justement tout le truc d'Yggdrasil, c'est qu'on puisse être tout public et qu'au travers, en fait, de nos mangas, on n'est pas ni de sexualité, ni de choses violentes. D'ailleurs, il n'y a pas de fanservice du tout. Donc, pas de petites culottes, pas de tout ça, comme on peut voir dans beaucoup de mangas japonais. Et c'est que surtout, en fait, l'idée, c'est de pouvoir parler aux plus jeunes sur des sujets qui sont parfois compliqués et en fait jamais c'est montré de front. C'est-à-dire que même quand je parle de la pédophilie n'est jamais montrée de front. C'est toujours détourné au travers d'une expérience, d'un machin. Un enfant de 10 ans ne le verra pas. Et plus on va grandir, plus on aura un prisme de lecture qui va s'agrandir.
Très intéressant, en effet, pour un manga évolutif. C'est votre premier manga ?
Non, pas du tout. C'est la deuxième série. Le premier manga qui s'appelait My Magical Girlfriend, qui est un hommage au manga qu'on avait fin 90, début 2000, donc vraiment mon adolescence, qui va être sur toutes les comédies romantiques, le côté Magical Girl avec Sailor Moon, etc. Voilà, donc là, c'est tout le côté Dorothée qui revient dans ce manga-là, manga hommage. Ensuite, j'ai effectivement fait Yggdrasil Sentai, mais avant d'être en auto-édition et d'avoir monté ensuite ma maison d'édition avec mon frère, j'étais travaillé chez Ankama, ensuite j'étais chez Soleil, chez Delcourt, et donc j'étais scénariste et coloriste, du coup, pour du franco-belge.
Parce que auteur de manga, ce n'est pas seulement scénariste, c'est aussi dessinateur. Est-ce que c'est un rêve depuis tout petit d'être auteur de manga?
Pas du tout. Moi, je suis à la base, j'étais parti pour faire de la robotique, et à 18 ans, j'ai découvert Lovina, qui passait à l'époque sur Game One, et donc j'ai découvert la série en plein milieu. Je ne sais pas pourquoi, c'est le destin, j'ai accroché cette série. Ensuite, j'ai demandé à mon meilleur ami si ça existait en manga, parce que lui est un peu plus branché, et je suis tombé sur les deux premiers tomes qu'un vendeur m'a vendu. Là, je me suis dit, en fait, c'est ça que je dois faire dans ma vie, je dois faire du manga. Alors que je n'avais jamais dessiné, je n'avais jamais écrit d'histoire, j'étais pas vraiment créatif, j'étais plutôt un adolescent qui était parti pour faire de l'électronique. En fait, non, j'ai tout plaqué en l'espace d'un an, un an et demi, pour me lancer dans le dessin, et voilà, c'était des années de galère, parce que forcément, on se retrouve face à des gens qui dessinent, eux, depuis qu'ils sont petits, qui ont une vraie passion pour ça, qui ont déjà 15 ou 20 ans d'expérimentation, et moi pas. Moi, j'avais un an et demi d'expérimentation quand je suis rentré à mon école à Nantes.
Vous avez fait quand même une formation un peu dirigée sur le dessin, que l'école de Nantes qui se nomme
l'école Pivot. C'est une très bonne école. Après, ma propre expérience, je ne recommande plus les écoles en fait à des parents qui me posent la question, parce qu'en fait, c'est le travail personnel qui prime. À l'heure actuelle, je trouve qu'Internet est suffisamment riche en contenu pour ne pas avoir besoin de payer 20 000 euros de frais de scolarité, tout simplement.
Eh bien, merci pour votre temps. Les auditeurs peuvent vous retrouver sur Internet, sur le site
www.doshin-edition.com. Alors, édition avec un S. Sinon, vous allez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta et Twitter.
Merci bien.
Soudain, au bout de l'allée, résonne le célèbre hymne de l'Empire intergalactique. Allons les rencontrer.
Sur le stand de 500 Ennium French Garnison, merci à Kevin de nous accorder cette interview. Bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs ce que c'est 500 Ennium French Garnison?
Alors en fait, la 500 Ennium French Garrison, c'est une branche de la 500 Ennium Légion qui regroupe tous les passionnés de Star Wars qui veulent faire des costumes de méchants et qui ont la reconnaissance officielle de Disney et Lucasfilm pour représenter la licence. Il faut savoir que ça représente plus de 15 000 membres à travers le monde et presque 380 en France. Ça a presque un peu plus de 20 ans maintenant, la 500 Ennium Légion. En fait, ce sont des gens qui reproduisent le plus fidèlement possible les costumes qu'on peut voir à l'écran. Et les activités se divisent en trois parties. Il y a le caritatif, qui est vraiment le cœur de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on est sollicité souvent pour rendre visite aux enfants malades dans les hôpitaux, soutenir les levées de dons contre le cancer, pour les virages de l'espoir, ce genre de choses-là. On est sollicité également pour des événements commerciaux. C'est-à-dire dès qu'une boutique souhaite avoir des costumés pour le lancement d'un produit ou la promotion d'un des films en sortie cinéma, c'est à nous qu'on fait appel. Nous, ça nous permet de récupérer des fonds qu'on va pouvoir reverser par ailleurs aux Blues Roses ou d'acheter des jouets qu'on pourra distribuer par la suite. Et le dernier pan, c'est les conventions comme on a là aujourd'hui, qui nous permet d'être nous présenter auprès du public, d'échanger avec les gens qui veulent nous rejoindre et tout simplement de nous faire plaisir en partageant notre passion autour de l'univers de Star Wars et de la création des costumes.
Donc vous fabriquez vos propres costumes?
C'est ça. Alors il y a plusieurs manières d'en faire. La plupart du temps, il y a des gens en fait qui pré-thermoforment les armures en des plaques de plastique. Ça peut se commander. Par contre, il y a tout le travail qui reste à faire derrière, c'est-à-dire les découper, les étrimer, les mettre à ses mesures, faire tout ce qu'on appelle le strapping, c'est-à-dire le montage de sangles. Ensuite, tous les ajustements pour un montage de casque, mettre les lentilles, rassembler d'autres éléments pour faire un costume complet.
Comment on peut intégrer votre association?
Alors, sur le site de la 500e Légion Monde, il y a ce qu'on appelle donc des CRL, c'est-à-dire c'est des fiches qui reprennent pour chaque costume qui sont validables à 500, pièce par pièce, comment doit être monté le costume. Donc, les gens fouillent parmi les CRL et trouvent un costume qui leur plaise. Et ensuite, ils s'inscrivent sur le forum français, donc la 500e French Garrison. Ils font un petit topic qui se présente. Ils disent, voilà, j'aimerais faire tel ou tel costume. Et à partir de là, les membres vont l'accompagner en lui disant, tu as plusieurs options pour acheter le kit de base. Voilà comment moi j'ai fait, si les gens ont déjà fait, pour travailler telle ou telle pièce et ainsi aider les gens à faire leur costume. Une fois que c'est fait, avec le costume est monté, on a tout un process où il suffit de suivre les étapes qui permet de rejoindre la 501, où on choisit un matricule, on envoie les photos du costume qu'on a fait, et une fois que c'est fait, soit ça passe, c'est-à-dire que ça a respecté vraiment la CRL, parce que c'est ça qui va servir de template, soit ça passe pas, et dans ce cas-là, il y aura un petit mail en disant il faut reprendre telle ou telle pièce.
Super, merci beaucoup pour les passionnés de Star Wars, donc rendez-vous sur le site 501e French Garnison.
Après ces guerriers stellaires, je vous propose de découvrir un autre type de guerrier.
Nous nous retrouvons sur le stand de eSoft, un vidéaste spécialisé dans l'airsoft. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce que c'est l'airsoft?
L'airsoft, c'est un loisir originaire du Japon qui est un peu similaire au paintball sur certains aspects. On va utiliser des lanceurs qui vont utiliser des petites billes de 6 mm pour les propulser aux adversaires. Et on va faire différents modes de jeu qu'on peut retrouver sur certains FPS ou avec des scénarios un peu plus complets qui vont être écrits à l'avance. C'est un loisir basé sur le fair play, parce que contrairement au paintball, il n'y aura pas de peinture pour nous désigner. Donc ça sera au fair play à la touche, donc soit on le sent, soit on va l'entendre. Pour se désigner, on va dire out, comme quoi on est hors jeu.
Clairsoft, est-ce que c'est ouvert à tout le monde ou il faut être très spécialisé ou très physique?
Non, c'est vraiment ouvert à tout le monde. La seule contrainte à l'airsoft, c'est au niveau de la loi. Il faut être majeur pour pratiquer l'airsoft en association. Sinon, on accepte tout le monde sur le terrain. Il y a tellement de façons de jouer différemment.
C'est quoi ce métier de vidéaste dédié à l'airsoft?
En fait, j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a quelques années. C'était pour faire découvrir l'airsoft aux copains. Et j'y ai pris goût à la vidéo et j'ai continué à en faire. Présenter du matériel, des vidéos de parties, etc. Pour faire découvrir différents aspects de l'airsoft au travers des réalisations.
Quels sont les différents aspects de cet airsoft?
Ils sont multiples et variés. Pour le coup, ça va être ceux qui aiment bien le jeu de rôle, par exemple, vont être intéressés pour se créer un personnage au travers de l'airsoft. Ceux qui aiment bien se dépenser avec des modes de jeu un peu plus courts, comme du match à mort équipe ou à objectif, ou ceux qui aiment vraiment se donner tout au long d'un week-end, où ça va être vraiment une OP où il va y avoir un scénario écrit avec des PNJ qui vont être mis en place, etc. Donc vraiment, c'est pour tout horizon, tous ceux qui ont envie de changer les temps d'un week-end et se retrouver autour de l'airsoft avec les copains, etc. Et ça change un peu des jeux vidéo, vu que là, on va être en plein air, etc.
Merci beaucoup eSoft, malgré votre voix cassée.
Auditeurice, si vous êtes plutôt attiré par l'ambiance médiévale fantasy, laissez-moi vous présenter de véritables chevaliers.
Nous retrouvons les chevaliers de l'équipe des Faucons de Montbazon. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce qu'est le béour?
Alors, le béour, c'est avant tout un sport de combat d'inspiration médiévale. C'est basé en fait sur des luttes qui se faisaient en fait en marge des tournois, des joutes avec des chevaux, où les bonhommes s'entraînaient à pied, ce qui permettait en fait de s'entraîner entre chaque guerre et d'éviter que pour les bonhommes de se taper directement dessus et d'aller taper son voisin, et plutôt de le faire en public. Actuellement, c'est vraiment se mettre en armure complète, hein, des armures comme à la période médiévale, donc en acier complet, et de se taper dessus avec des armes non tranchantes, que ce soit en duel, comme on peut proposer comme aujourd'hui, mais comme la plupart du temps se fait en équipe. Donc en 5 contre 5.
Du coup, est-ce que vous créez vous-même vos armures ou votre matériel?
Alors non, pour la bonne et simple raison que c'est notre vie qui est en jeu et forgeron, c'est un métier. Et s'il y a quelques pièces qu'on peut faire par nous-mêmes, il y a des pièces qui sont beaucoup plus complexes comme le casque et les gantelets où on fait forcément appel à des forgerons. Il y a un travail très important et en soi, la tête on y tient, étonnamment.
Est-ce que tout le monde peut venir intégrer votre association?
Alors oui, pour le béour, tout le monde peut participer, bien évidemment, femmes comme hommes. C'est un sport ouvert aux deux genres. Bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir plus de 18 ans. Bien évidemment, c'est un sport de combat extrême. C'est un peu comme le pro fight ou la boxe. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu pour la sécurité et la santé. Donc, tout le monde peut venir, voilà. Faut simplement avoir un petit budget financier, forcément, pour se payer l'armure. Et puis, bien sûr, avoir une bonne condition physique. Alors, on peut arriver sur un entraînement de béour et ne pas en avoir du tout. Nous, on travaille, on a une bonne partie qui va être cardio et physique. On va justement préparer la personne au combat. Et puis ensuite, on va venir peaufiner tout ça avec l'armure. Donc voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et on a vraiment une suite, on suit vraiment la personne, qu'elle puisse accéder le plus rapidement possible à un bon niveau.
Avec l'asso, est-ce que vous avez des événements, des projets pour des portes ouvertes par exemple?
En fin de compte, on est un petit peu ouvert. C'est-à-dire qu'on va essayer de regarder à gauche à droite ce qui se passe, comme par exemple pour le Japan Tour cette année. On était également présent l'année dernière. On essaye de faire connaître le béour par le biais d'organisations ou de conventions comme celle-ci. Il y a également les tournois médiévaux sur lesquels on participe. Il y en a en moyenne une dizaine par an. Donc voilà, on essaye d'être le plus présent d'abord sur les tournois et puis après on fait des petites conventions comme par exemple les fêtes joanniques qui vont avoir lieu là cet été où on va pouvoir participer à Tours Centre et faire des défilés en armure et combattre. Donc voilà, on essaye d'être présent sur pas mal d'événements. La plupart du temps, il y a un rapport avec le médiéval toujours.
Pour nos auditeurs intéressés, où est-ce qu'ils peuvent trouver les coordonnées de l'association?
Le plus simple pour joindre, on a un Facebook, Faucon Noir Touraine Béour, où là nos deux admins répondent très rapidement. Sinon, on fait des entraînements tous les dimanches soirs au gymnase de Montbazon, de 20h à 22h. De temps en temps, on peut en été en faire en semaine à la forteresse. Il vaut mieux aller directement sur la page Facebook pour demander, en plus pour voir s'il y a besoin de covoiturage ou autre. Donc on propose une séance d'essai, bien sûr. Là, on va montrer un peu ce qu'est notre sport, globalement.
Ça nous fait plaisir de mettre le béour en avant. C'est vrai que ça commence à se démocratiser de plus en plus. On le voit passer à la télé, notamment dans l'émission Quotidien, mais dans beaucoup d'autres, dans des reportages, TF1 ou autres. Et c'est vrai que ça commence à faire plaisir. Donc faut en parler autour de soi, tout simplement. Et puis venir au tournoi, si vous n'êtes pas forcément intéressé par le béour en tant que combattant, on peut également faire arbitre. Enfin, venir aux prestations, nous voir combattre, histoire que tout ça, ça amène pas mal de beau monde et que ça se fasse connaître encore un petit peu plus. Voilà, c'est tout ce qu'on demande.
Merci à vous deux.
Si dans votre petit cœur, vous attendez toujours votre invitation à l'école des sorciers, pourquoi pas vous faire le plaisir de toucher des doigts votre rêve de magie en intégrant l'équipe de Quidditch.
Merci à Rémi et Florian de m'accueillir. Vous pouvez expliquer ce que c'est le Quidditch?
Alors le Quidditch, comme le nom l'indique, c'est le sport qui est venu donc de la saga Harry Potter. Il a été adapté en vrai il y a maintenant une dizaine d'années. Le Quidditch, c'est très simple, c'est 6 personnes contre 6 personnes sur un terrain. De chaque côté, 3 anneaux comme dans le film. Et le but donc des deux équipes, c'est de marquer le plus de points que l'équipe adverse et donc de remporter le match. Pour ça, du coup, il y a 6 joueurs sur le terrain, il y a 3 poursuiveurs, un gardien et 2 batteurs. À 18 minutes de jeu, il y a les attrapeurs et le vif d'or qui rentrent en jeu. Là, ça rentre en 7 contre 7. Et dès que le vif d'or est attrapé, ça vaut 30 points pour l'équipe qui l'a attrapé, ça met fin au match.
Et où est-ce que nous pouvons voir des compétitions de Quidditch à Tours ?
Sur l'île Balzac, au niveau des terrains de foot. On fait des matchs toute une journée et il y a 2-3 fois par an.
Pour ceux qui seraient intéressés pour postuler, on vous trouve sur quels réseaux sociaux ou sur quel site internet ?
Alors actuellement, vous pouvez nous trouver sur notre page Facebook, les Magyars Tours Quidditch. Et également, nous avons une page Instagram. Et sinon, vous pouvez directement vous renseigner sur la page de la Fédération Française de Quidditch, donc la FQF, qui sera ravie de vous donner des informations.
Le Quidditch, c'est un sport très physique ou c'est ouvert à tout le monde ?
C'est un sport ouvert à tout le monde. Tous les physiques sont acceptés. Il y a quand même des contacts, il y a du physique, c'est très cardio. C'est des équipes mixtes obligatoires, donc on accepte aussi les non-binaires. Donc tout le monde est accepté pour venir jouer.
Vous avez des événements prévus ?
Un événement avec Décathlon, Tour Nord, qui se passera du coup début avril. Et suite à ça, le week-end suivant, on fera de nouvelles initiations pour que les gens qui ont découvert notre sport à Décathlon puissent venir l'essayer en direct.
Si vous préférez des activités moins physiques, laissez-moi vous faire découvrir les tables de jeu de l'association 2K2D.
Avec Fabien qui va nous présenter l'association.
Alors l'association 2K2D est une association de jeux à Tours. Tous les vendredis soirs au niveau de Courtelines près des Halles et accueille à partir de 19h30 jusqu'à 2h du matin les personnes souhaitant faire du jeu de société, du jeu de rôle et certains soirs aussi des merdeurs.
Est-ce que vous avez une page Facebook ou un Instagram où les gens peuvent se renseigner sur vos événements à venir ?
Oui, bien sûr. Nous avons notre page Facebook de KP2D ainsi que notre Instagram. Et nous avons déjà dans les tuyaux le week-end jeu que nous organisons le 30 et 31 mai.
Comment on fait pour accéder à votre association ?
Alors, de 19h30 jusqu'à 20h30, nous avons un accueil où nous accueillons les nouveaux arrivants afin de leur présenter les lieux et de leur expliquer le fonctionnement. Sachant que la première soirée est offerte aux nouveaux arrivants pour qu'ils découvrent et profitent de l'ambiance. Et après, soit ils deviennent adhérents, donc 15€ à l'année scolaire fin septembre, on doit renouveler. Dans ce cas-là, les lieux sont ouverts tous les vendredis. Ou alors, ils font une participation d'1€ par soirée qui sera déduite de la cotisation s'ils désirent adhérer plus tard.
Très bien, merci Fabien pour les renseignements.
Pour faire tourner vos méninges et votre esprit d'équipe, pourquoi pas aller faire un escape ?
Nous nous retrouvons sur le stand de Escape Express qui se situe 56 avenue Marcel Dassault quand il n'est pas à la Japan Tour. Nicolas, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs le concept de Escape Express ?
Alors, c'est un escape game déjà, donc l'escape game, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu dans lequel vous allez être plongé, vous et votre équipe, une équipe en général de 3 à 6 joueurs, plongé dans un univers prédéfini, et dans cette aventure, eh ben, vous allez devoir résoudre des énigmes, fouiller la salle dans le but bien de sortir de cette salle en moins de 60 minutes, chronométré bien évidemment, c'est un jeu à temps limité.
Quels sont les univers que vous offrez ?
Alors, on a différents scénarios possibles, on a donc d'une part un temple aztèque, donc à la Indiana Jones. On a également un appartement d'un pépé mexicain, un peu à la manière de Coco, si vous avez vu le film donc, sur la fête des morts mexicaines. On a également un restaurant américain, un diner, une enquête policière. Vous êtes envoyé par la CIA pour résoudre une affaire un peu étrange. Et nous avions avant une quatrième salle qui était le trésor des boucaniers, mais qui malheureusement va fermer pour être remplacé par un nouveau thème sur lequel on est déjà en train de travailler.
Où et quand pouvons-nous jouer chez vous ?
Alors nous sommes situés donc dans le quartier des Deux Lions, à Tours Sud. On est juste derrière le cinéma CGR, dans la partie bureau. Et si cela vous intéresse, vous pouvez réserver votre créneau sur notre site internet, donc escape-express.fr. Ça fonctionne sur réservation. On vous invite bien évidemment à venir tester tout ça vous-même.
Merci.
Vous l'aurez compris, une multitude d'univers se côtoient lors d'événements de cette envergure. N'hésitez pas à franchir la porte. Peut-être cela sera pour vous l'occasion de découvrir une nouvelle passion. Mais avant tout, d'éveiller votre curiosité. Merci à toutes celles et ceux qui ont très volontiers répondu à mes questions. J'espère pouvoir vous faire découvrir autant de chouettes personnes lors de la prochaine édition. Et peut-être, chers auditeurs, nous nous croiserons au détour d'une allée.